Fique.
À 4 jours du premier tour, on va parler des territoriales dans ce journal. On ira faire un tour au grand casting de The Voice et puis place à Mademoiselle Molière en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Et on commence par la politique avec Pamela Otsenasek qui était notre invitée ce matin.
Et oui, l'invitée du quart d'heure de campagne au nom du Haumaoui, la liste menée par Tawiti Nena. Pamela Otsenasek ne pointe qu'à la 15e position de la deuxième section, une place de suppléante sur cette liste, mais l'ancienne candidate aux législatives fait activement campagne pour la plateforme qu'elle considère comme une grande famille, une famille où se croisent des sensibilités politiques très différentes, notamment sur la question de l'avenir institutionnel du Fénois, alors autonomiste ou indépendantiste, le mouvement de Tawiti Nena, passé par le Tawini et le Amuitaira version souverainiste, a choisi de ne pas choisir. Écoutez.
La ligne de Haumaoui, c'est l'intérêt général avant tout. Le clivage indépendance-autonomie, il n'existe pas pour l'instant à Haumaoui. Parce que le plus important, c'est vraiment la population. Il faut savoir que 40 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté et il y a des urgences que de parler d'indépendance ou d'autonomie.
Voilà, Pamela Otsenasek qui assure que sa liste a choisi un discours de vérité, notamment sur l'endettement du pays, plus de 150 milliards de francs aujourd'hui. Pour le résorber, Haumaoui veut faire du pays un investisseur dans le transport maritime avec un bateau appartenant à la collectivité, dans les hydrocarbures où la Polynésie prendrait le contrôle de l'approvisionnement pour faire baisser les prix, dans la banque, l'assurance, la production électrique et aussi dans le tourisme. Écoutez.
Il y a énormément d'étrangers qui vendent tout à l'extérieur et qui viennent acheter. Donc nous n'aimerions pas nous retrouver comme à Hawaï, où les Américains ont acheté en masse, les Japonais également, et les Autochtones se retrouvent avec plus rien. Donc c'est pour ça que nous allons inciter la population à sortir rapidement de l'indivision et à plutôt louer.
Voilà, la candidate qui dans la vie est enseignante en milieu carcéral parle aussi de santé avec la création d'un centre de désintoxication de Made in Fénois qui deviendrait une obsession. Elle axe aussi son discours sur le foncier sans lequel les familles perdent leur identité. Je cite, vous venez de l'entendre, Haumaoui promet des mesures calquées sur la Corse pour sortir de l'indivision, mais aussi pour interdire la vente de terres sur le modèle de Rapa ou de Mayao et donc un programme en matière de tourisme.
Haumaoui arrive au pouvoir demain, nous allons investir dans deux paquebots, hein, puisque les paquebots rapportent. Alors nous allons investir également dans des pensions de famille à travers les archipels, c'est-à-dire que le pays investira, sera actionnaire majoritaire dans la petite hôtellerie et dans le village tahitien. Et le privé, le secteur privé ne sera plus prioritaire en fait.
Voilà, toute l'interview de Pamela Otsenasek est à retrouver sur notre site radio1.pf demain pour le dernier quart d'heure de campagne avant le premier tour de dimanche. C'est une représentante du Amuitaira qui sera avec nous. Pascal Haïti sera en direct à 8h sur nos ondes.
Un syndicat a fait irruption dans la campagne hier.
Absolument, le syndicat du chanvre à 4 jours du premier tour. Le collectif a regretté que le cannabis thérapeutique et industriel soit absent des débats des territoriales. Du débat, il y en a pourtant eu pendant la dernière mandature. On se souvient du colloque organisé sur le sujet par Moëté Brotherson ou de la proposition de loi de Nicole Sanquer. Le gouvernement Tapura avait fini par légiférer en fin d'année dernière pour avancer vers une production locale. Mais les arrêtés d'application, eux, manquent à l'appel.
Cette loi de pays a été une grande satisfaction pour nous, mais avec une déception. On s'attendait à une entrée en application immédiate, mais on s'aperçoit que le travail a été fait à moitié. On aurait souhaité que le gouvernement Tapura aille jusqu'au bout, c'est-à-dire faire voter la loi de pays, mais également ses arrêtés d'application. Et donc on va laisser le travail au futur gouvernement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on s'investit pour justement interpeller ces partis politiques, qu'ils communiquent, qu'ils nous disent quelles sont leurs intentions, qu'ils nous donnent un calendrier d'exécution.
Voilà, Philippe Catelin, le président du syndicat du chanvre au micro de Caroline Perdry, qui note que seuls 3 des 7 partis en lice pour ces territoriales citent la question du cannabis thérapeutique dans leur propagande. Aucun d'entre eux ne parle de structurer une filière. Un manque de courage et d'ambition, estime-t-il, promettant que plusieurs investisseurs ont déjà tapé à la porte de la Polynésie.
Et on fait un détour par Paris.
Paris, où on parle de Nouvelle-Calédonie. Les premières consultations sur l'avenir institutionnel ont débuté hier à Matignon. Les indépendantistes d'un côté, les loyalistes de l'autre, le FLNKS refuse à ce stade une négociation multipartite. Il faudra pourtant se mettre d'accord sur le corps électoral, toujours gelé pour les élections territoriales de 2024, sur l'exercice du droit à l'autodétermination dans le futur, et bien sûr sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa devait se terminer au bout de 30 ans, ça fait déjà 35. Les Calédoniens sont censés s'accorder sur un statut plus pérenne avant le mois de juin.
Un casting a pas pété.
Oui, un grand casting qui a commencé. Alors cette fois, ça n'est pas de l'opéra, mais il faut tout de même donner de la voix. L'idée est de présélectionner les candidats polynésiens pour les castings des émissions The Voice et The Voice Kids. Des auditions ont commencé la semaine dernière et dureront encore 2 jours. En journée, le chasseur de voix a invité des artistes locaux déjà expérimentés. Le soir, le micro est ouvert pour tous les amateurs de chansons, adultes ou enfants. Les précisions de Xavier Vergès, le recruteur, il est au micro de Vaïtiéré Gobré.
Tout le monde peut s'exprimer, oui. Bon, après, il faut chanter juste, c'est la base. Et surtout être naturel. Les critères, c'est tellement subjectif, en fait. Mais bon, la signature vocale, c'est quand même très important. Voilà, sur un projet comme ça. Alors, des fois, c'est le physique, des fois, c'est les deux. On prépare une émission de télé, c'est un divertissement télévisuel. Donc, effectivement, le physique, parfois, ça compte aussi. On n'est pas forcément tous égaux là-dessus. Voilà. Et j'essaye de trouver des personnalités, en fait, atypiques. Et la beauté, ça peut faire partie de ça aussi, quand on a une voix, bien sûr.
Voilà, après les 6 micros ouverts déjà organisés, le CRU 2023 s'annonce plutôt bon selon le recruteur qui se dit satisfait des voix et personnalités qu'il a rencontrées ces derniers jours. Il ne reste que 2 soirées pour les amateurs, ce soir à partir de 19h30 au Biou ou demain jeudi au Malabar. À la fin de cette première étape, une quarantaine de chanteurs, enfants et adultes participeront au casting officiel de Polynésie. Ce sera le 15 juin prochain et ce sera face au public et surtout face à un membre de la production de The Voice France.
Et puis il y a aussi du théâtre ces prochains jours.
Et oui, du théâtre avec Mademoiselle Molière, dont 3 représentations sont prévues cette semaine à Papeete. La pièce nous emmène en 1661. Après des années de tourmente, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière s'abrête à jouer devant le roi Louis XIV. Une vraie consécration. Et c'est à ce moment qu'il annonce à sa compagne d'alors, Madeleine Béjart, qu'il la quitte pour une autre et pas n'importe laquelle. Écoutez.
Madeleine Béjart a vraiment été l'éminence grise de Molière. Elle l'a découvert, il était un jeune acteur et elle a tout de suite senti chez lui le potentiel d'un grand homme de théâtre et surtout de l'écriture, donc elle l'a poussé à écrire, et elle arrive là au moment où ça y est, ça va marcher, c'est ça qui est terrible aussi, et c'est à ce moment-là qu'il la quitte pour une fille plus jeune et qui plus est la sienne.
Anne Bouvier, qui était sur notre plateau hier et qui incarne sur scène Madeleine Béjart, donc, ce qui lui a valu à Molière, justement. Pour son personnage, le drame est d'autant plus douloureux que Molière va connaître, après son union avec sa fille Armande, les plus grands et les plus sérieux succès de sa carrière, L'École des femmes, Tartuffe, Le Misanthrope. C'est Christophe de Mareuil qui joue ce Jean-Baptiste Poquelin, figure tutélaire par excellence du théâtre français, mais il aborde le rôle en laissant au vestiaire le lourd costume. Écoutez.
Je pense que simplement, il est réellement tombé amoureux, cet homme. Voilà, il est tombé amoureux de la personne qu'il ne fallait pas aimer, c'est-à-dire la fille de sa femme. Et je pense qu'il ne s'est pas posé d'autres questions que celle d'aller au bout de son amour. Et c'est aussi bête que ça, en fait. Les grandes douleurs faisant les grandes inspirations. On peut imaginer que la rupture avec Madeleine a été d'une grande douleur pour Jean-Baptiste, même si c'est lui qui l'a provoquée. Et qu'à partir de là, il a fait son baptême du feu et il a pu construire, élaborer, écrire Don Juan, Le Misanthrope, Le Tartuffe, enfin toutes les grandes œuvres de Jean-Baptiste qu'on étudie encore à l'école aujourd'hui.
Un bourgeois qui réussit les triangles amoureux qui voguent entre la comédie et la tragédie. L'histoire de Molière, c'est presque du Molière. En un peu plus moderne, c'est la raison sans doute pour laquelle la pièce a reçu de nombreux prix en métropole. Mademoiselle Molière, c'est donc les 14, 15 et 16 avril au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de avoir suivi. Le retour de l'actu, ce sera bien sûr à 16h et ce sera pour le Flash.
Exactement, merci beaucoup Charlie. Molière
avec un L.